Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Margot Leridon, mais aussi Mélanie Chalandon, Bertie Bourdon et Nicolas Sendé, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Clara Galivelle. Dernier temps de notre série consacrée à la recherche de nouveaux pactes démocratiques du côté de l'Amérique latine. Après nous être penchés lundi sur le changement de constitution en cours au Chili, mardi sur la recomposition du paysage politique du côté du Brésil, et hier à la valse des présidents au Pérou, tournons-nous aujourd'hui vers le Venezuela, où les élections législatives sont prévues dimanche. L'impossible sortie du chavisme, c'est le titre qu'on a retenu ce matin.
Soy un guerrero, un combattiente. A toda la oposición le digo, acepto el reto.
Je suis un guerrier, un combattant. À l'opposition, je vous le dis, j'accepte le défi. Ce dimanche, j'accepte le défi. Nous verrons bien qui va gagner. Si nous gagnons, on va continuer. Et au peuple, je le dis, mon destin est entre vos mains. Si l'opposition gagne de nouveau, je pars. Je quitte la présidence. Si l'opposition gagne les élections, je partirai. À partir d'aujourd'hui, mon destin est entre les mains du peuple du Venezuela.
Dejo mi destino en manos del pueblo de Venezuela.
Voilà, c'est la voix de Nicolas Maduro qu'on entendait à l'instant président du Venezuela. Pour l'opposition, le scrutin n'est qu'une mascarade destinée à lui confisquer une nouvelle fois le pouvoir législatif. 5 ans après sa victoire aux dernières élections parlementaires, elle se retrouve dans une situation hors norme, à la tête d'une assemblée nationale privée de la totalité de ses prérogatives par le président Maduro. Ce dernier compte sur la victoire de son parti dimanche pour fermer définitivement cette parenthèse et récupérer officiellement un pouvoir qui n'a jamais cédé en pratique. Une perspective crédible, une partie de l'opposition ayant appelé à l'abstention et la plupart des observateurs ayant refusé de superviser le scrutin, estimant que les conditions d'un processus démocratique n'étaient pas réunies. Dans ce contexte, l'idée d'une alternance semble irréaliste, en tout cas à court terme. Juan Guaido, autoproclamé président par intérim en janvier 2019 et reconnu par une partie de la communauté internationale, ne fait plus l'unanimité au sein de l'opposition, alors que de nombreuses personnes ont quitté le pays sous l'effet d'une crise économique et sociale dramatique, encore aggravée par le Covid-19. Mais alors, comment le chavisme, rejeté par les urnes en 2015, mis au banc de la communauté internationale, est-il parvenu à se maintenir ? À défaut d'ouvrir une perspective d'alternance, les élections de dimanche peuvent-elles faire bouger les rapports de force ? Dans quelle mesure l'aggravation de la crise économique, sociale, humanitaire constitue-t-elle un terreau insurrectionnel ? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Olivier Compagnon. Bonjour Olivier Compagnon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur à l'Université Sorbonne Nouvelle, membre de l'Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine. Avec nous également Thomas Posado. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Vous êtes docteur en sciences politiques, chercheur associé au laboratoire CRESPA. Vous avez entendu l'un et l'autre l'extrait de ce discours de Nicolas Maduro, c'était avant-hier. Il a publié ce message sur son compte Facebook, dans lequel il s'engage à respecter le résultat des urnes. Il s'engage même à quitter le pouvoir en cas de défaite. Olivier Compagnon, c'est un message qu'il faut prendre au sérieux, ou en réalité, il sait parfaitement qu'il va gagner et tout cela n'est que une pure comédie et il n'y a absolument aucun enjeu pour le scrutin de ce week-end, Olivier Compagnon?
Alors, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux concrets. Autre que symbolique pour ce scrutin. Comme vous l'avez rappelé dans votre introduction, une bonne partie de l'opposition, et notamment toute celle qui se reconnaît encore derrière Juan Guaido, a décidé de longue date de boycotter ces élections. Et au fond, l'opposition au gouvernement qui est représenté est relativement faible, une dizaine de petits partis politiques, et il y a fort à parier que Maduro l'emporte très facilement. D'autant plus que Guaido et son entourage appellent très largement les Vénézuéliens à ne pas aller voter. Je crois qu'un des éléments qui sera très intéressant à observer dimanche soir ou lundi matin, ce sera le taux de participation qu'on pourra d'ailleurs comparer à celui de 2015, puisque vous avez rappelé ce tournant très important dans l'histoire du chavisme en 2015. C'est la première grande défaite électorale du chavisme, lorsque l'Assemblée tombe aux mains de l'opposition. Et cela s'était produit avec une participation de près de 75%, ce qui était tout à fait considérable. Donc là, il faudra comparer cela, évidemment. Cela dit, hein, il est presque certain d'ores et déjà que Maduro va l'emporter du fait justement du boycott du scrutin par l'opposition.
Je vais revenir justement sur cette question du boycott avec vous, Thomas Posado, mais pour poursuivre un tout petit peu, Olivier Compagnon, vous dites qu'il va falloir regarder le niveau de participation, etc. Comme si, au fond, ce scrutin était parfaitement démocratique et qu'il n'y avait pas de trucage à attendre, ou en tout cas à la marge. Le scrutin de dimanche, c'est quoi? Le résultat qui va en sortir sera un résultat qui représente ce qu'il y aura effectivement dans les urnes. Enfin, Olivier Compagnon.
Alors,
c'est une vraie question, hein.
Et je vais vous faire une vraie réponse. Enfin, je vais essayer en tout cas. La question du trucage, de la fraude, c'est toujours très très compliqué, et c'est d'autant plus compliqué que, comme vous l'avez rappelé, beaucoup d'observateurs traditionnels des élections vénézuéliennes, ceux-là même d'ailleurs qui expliquaient, par exemple, dans les années 2000, que les larges victoires de Chavez étaient le produit de la souveraineté populaire, ces observateurs, pour la plupart, ne vont pas être présents. Donc ça, c'est un premier problème. Et deuxièmement, de toute façon, ce ne sont pas des élections qu'on peut considérer comme compétitives, comme on peut l'attendre dans une démocratie, puisque une bonne partie de l'opposition, d'une part, les boycotte. Et puis d'autre part aussi, parce qu'il y a eu, alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est très compliqué, mais il y a eu en juin, juillet, août, toute une série de polémiques internes concernant la composition du Conseil national électoral, qui est en fait le garant institutionnel de la bonne tenue de ces élections, et dont les nouveaux membres ont été nommés sans aucun consensus de la communauté politique vénézuélienne. Et d'ailleurs, c'est la raison qui a poussé très précocement les États-Unis, l'Union européenne, de nombreux pays, à annoncer dès juillet, dès août, qu'ils ne reconnaîtraient pas les résultats de ces élections parce qu'elles n'étaient pas compétitives comme on peut l'attendre dans une démocratie.
Donc le contexte fait que, a priori, on va de toute façon vers une victoire de Nicolas Maduro. Thomas Posado, Guaido a effectivement appelé à boycotter cette élection, ce qui n'est pas le cas de toute l'opposition. On va voir qu'en réalité, il faut davantage parler de cette opposition en pluriel, et on va voir qu'il y a d'autres acteurs qui sont très importants. Mais pourquoi est-ce qu'il appelle au boycott? Après tout, il aurait pu miser sur une victoire de son camp comme en 2015 et remettre encore la pression sur le régime. Pourquoi ce choix du boycott? Thomas Posado. Alors, je ne sais pas si Thomas Posado m'entend. J'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Alors, je vous pose la même question, Olivier Compagnon, puis on va essayer de régler ce problème technique. Olivier Compagnon, pourquoi ce choix du boycott? Parce que d'autres dans l'opposition ont choisi d'aller aux urnes.
Alors, premièrement, parce que Guaido, sans certaines raisons, considère, comme je l'ai dit, que le scrutin n'est pas compétitif, mais surtout aussi parce que il y a une crainte, hein. Imaginons, il y avait une crainte, je crois, dans le camp de l'opposition. Imaginons que elles aient lieu, je dirais, dans des conditions presque normales, et que Maduro l'emporte, contrairement à 2015. Et au fond, là, il donnerait à Maduro un argument démocratique qu'il n'a absolument pas envie de lui donner, même si, de mon point de vue, ce scénario est assez peu probable. Cela dit, si je peux me permettre d'émettre un avis personnel là-dessus, il me semble malgré tout que c'est une erreur de la part de l'opposition de faire cela. Et d'ailleurs, il faut rappeler, c'est toujours intéressant de faire un peu d'histoire, il faut rappeler que c'est une erreur qui a déjà été commise par l'opposition vénézuélienne en 2005, après leur grande défaite lors du référendum révocatoire qu'ils avaient organisé contre Chavez et qu'ils n'avaient pas réussi à imposer. En 2005, cette opposition avait donc boycotté les élections législatives, ce qui avait finalement permis à Chavez d'avoir la main sur l'ensemble des pouvoirs au Venezuela. De mon point de vue,
c'est une erreur politique.
C'est une erreur politique. Ouais. Parce que l'Assemblée est au moins une tribune, est au moins une arène politique, à défaut d'avoir une véritable capacité législative ou de prise de décision politique, dès lors que, on le sait, hein, après 2015, Maduro a court-circuité les pouvoirs législatifs et essentiellement gouverné par décret.
Thomas Posado, je pense qu'on vous a récupéré. Vous êtes d'accord? C'est selon vous aussi une erreur politique de boycotter cette élection, en tout cas du point de vue de l'opposition qui soutient précisément Guaido. C'est une erreur parce que c'est vrai que quand on fait un peu le bilan, deux ans après l'autoproclamation de Juan Guaido comme président, force est de constater qu'il n'a pas su réussi en tout cas à s'imposer à la tête du pays. C'est un véritable échec. On peut penser que du côté de l'opposition, bah il y a une vraie déception quand même. Il y a eu des espoirs et donc forcément des déceptions. Et donc, il y a peut-être le risque de le disqualifier politiquement de façon définitive, Thomas Posado.
Complètement. Et c'est quelque chose qui fait débat au sein de l'opposition. Est-ce qu'on n'est pas en train d'offrir l'Assemblée nationale sur un plateau à Nicolas Maduro de cette manière-là? C'est d'ailleurs la proposition qu'avait fait Enrique Capriles d'essayer de participer malgré tout à ces élections, malgré les caractères non transparents, malgré des changements de direction par le tribunal suprême de justice de différents partis d'opposition, donc qui a dépossédé certaines directions nationales pour investir d'autres directions nationales par le tribunal suprême de justice.
Je fais une toute petite parenthèse avant de vous laisser poursuivre. Enrique Capriles, il a longtemps été le numéro un, l'opposant numéro un à Nicolas Maduro. Il avait été candidat malheureux en 2012 face à Chavez. Six mois plus tard, il avait à nouveau perdu à Chavez, j'avais dit, oui, en 2012, et donc il avait ensuite perdu six mois plus tard face à Maduro. Il a ensuite été le principal meneur des manifestations de 2014 et des mois qui ont suivi, et il a été ensuite condamné à 15 ans d'inéligibilité. Voilà, je pose le cadre pour que les auditeurs suivent. Je vous en prie, Thomas Posado.
Oui. Alors c'est Leopoldo López, enfin Enrique Capriles, du coup justement fait partie de cette opposition modérée qui appelait à ne pas manifester en 2014 et essayer d'être ce leader unique de l'opposition qui essayait d'être dans une tendance plus modérée et plus dialoguant davantage avec le gouvernement.
D'accord.
Mais effectivement, il était le candidat unitaire de l'opposition en 2012 et 2013, et il a souhaité participer à ce scrutin, mais les négociations avec le gouvernement n'ont pas abouti. Il proposait avec l'Union européenne de reporter de quelques mois ce scrutin, ce qui n'a pas eu lieu. Mais effectivement, certains partis d'opposition vont jusqu'au bout en disant oui, il y a des conditions qui ne sont pas transparentes, mais on veut essayer de capitaliser le mécontentement contre le gouvernement dans la rue. Il y a aussi des opposants de gauche qui existent et qui sont présents à ces élections. Le Parti communiste s'est dissocié de Nicolas Maduro ces derniers mois et mène une campagne indépendante, subit des intimidations, mais mène une campagne indépendante et opposée à celle de Nicolas Maduro. Donc il y a un espace électoral dans ces élections. Après, il y a l'avis de l'opposition qui effectivement, il y a un certain nombre de conditions qui manquent de transparence, des pressions qui sont faites sur les électeurs, et encore quelques jours, Diosdado Cabello.
Voilà.
Donc celui qui est vu comme le numéro 2 du gouvernement Maduro, qui est président de l'Assemblée nationale constituante.
Alors là, la ligne pose problème. On va essayer de la refaire, Olivier Compagnon. Il y a une chose sur laquelle vraiment je voudrais vous entendre, c'est que ce que l'on constate, c'est que on n'a pas une opposition, mais des oppositions. Leopoldo López, Enrique Capriles, Juan Guaido. On pourrait penser aussi à Maria Corina Machado, dont on va essayer de parler aussi dans quelques instants. Il y a quelque chose qui nous frappe, nous vous d'ici, c'est que tout ce petit monde ne parvient pas en réalité à faire bloc pour organiser la fin du chavisme. Il y a quelque chose d'un peu mystérieux pour nous. Comment comprendre que ce front anti-Maduro ne parvienne pas à se mettre en place? On ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on a des stratégies différentes, des positionnements différents. On devrait tous, l'opposition devrait se retrouver dans son ensemble autour du projet de sortir Nicolas Maduro du jeu politique. Comment c'est-il qu'on n'y arrive pas?
Il y a plusieurs raisons. La première, quand même, c'est que il y a une indéniable dérive autoritaire du gouvernement depuis justement la défaite aux législatives de décembre 2015, et qu'aujourd'hui il n'y a pas un espace démocratique constitué qui permettrait effectivement de faire tomber Maduro. Ça, c'est quand même la première raison absolument fondamentale. Après, on a quelque chose de plus ancien qui en fait valait déjà dès la première moitié des années 2000, c'est que c'est une opposition extrêmement disparate où on trouve, alors a fortiori aujourd'hui, où l'on trouve à la fois des représentants des vieux partis vénézuéliens italien, Action Democratica, qui était donc en gros le parti social-démocrate, Copei, qui était le parti démocrate chrétien, mais aussi une droite très néolibérale, une droite beaucoup plus traditionnelle et conservatrice, parfois même une extrême droite, et puis comme le disait Thomas à l'instant aussi, au fur et à mesure, disons, du déploiement du chavisme dans les années 2000, l'émergence d'une opposition de gauche, de ce qu'on appelle souvent les déçus du chavisme, qui a effectivement le même désir de rejeter Maduro, mais l'incapacité, si vous voulez, à proposer un programme commun qui pourrait satisfaire tout le monde. Alors, la question aujourd'hui, c'est que, on va y venir, je suppose, la question aujourd'hui, c'est qu'il y a un rejet massif, aujourd'hui, dans l'opinion du gouvernement, et on pourrait imaginer que un simple vote des opposants pour se débarrasser de Maduro pourrait suffire. Quand bien même cela arriverait, on serait quand même bien curieux de savoir quel programme commun, quel programme d'unité nationale cette opposition si disparate pourrait bâtir pour une reconstruction rapide du Venezuela. Parce que là, l'enjeu aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'on a quand même un État failli, une économie dans un État absolument désastreux, et c'est un programme, c'est un véritable programme de reconstruction qu'il faut bâtir pour les années qui viennent.
Si vous doutez, est-ce qu'il faut comprendre, Olivier Compagnon, qu'en réalité, peut-être que la solution ne viendra pas de l'intérieur du Venezuela, mais de l'extérieur. Au fond, ça se joue ailleurs. Peut-être,
alors, je n'ai pas dit ça non plus.
Vous n'avez pas dit ça non plus.
Je n'ai pas dit ça non plus, et je personnellement, je ne suis pas du tout convaincu que la solution viendra d'ailleurs. Et d'ailleurs, je pense que finalement, les espoirs qui avaient été mis par une partie de l'opposition en Guaido ont en partie été douchés par le fait que Guaido est assez vite apparu avec le soutien qu'il a reçu d'une cinquantaine de pays de la communauté internationale, dont les États-Unis, dont l'Union européenne, est très vite apparu aussi, dans une certaine mesure, comme le candidat de l'étranger, le candidat d'une transition qui serait imposée, alors notamment par les États-Unis, par le groupe de Lima, par le président colombien.
Enfin, accessoirement, il avait remporté les élections. Accessoirement, je veux dire,
quelles élections?
Juan Guaido, je veux dire, quand il y a la vacance du pouvoir,
Maduro,
la force politique qu'il incarne est majoritaire.
Attendez, Maduro avait remporté les élections présidentielles avec 68% des suffrages au terme d'un scrutin qui n'a pas été reconnu par de nombreux pays de la communauté internationale. Ensuite, il y a eu effectivement l'autoproclamation de Guaido en tant que président de l'Assemblée nationale, mais qui, de fait, créait une bicéphalité du pouvoir dont on ne peut pas dire qu'elle avait une parfaite légitimité constitutionnelle. Bon. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit assez récemment toute une série de désaveux, je dirais, d'ordre juridique de la position qu'occupe Guaido aujourd'hui sur la scène internationale, notamment dans son incapacité à prendre la main sur un certain nombre d'avoirs vénézuéliens gelé à l'étranger, qu'il entendait récupérer pour financer son action politique et ses campagnes, et qu'il n'a pas pu récupérer, notamment pour des raisons strictement juridiques liées, je dirais, à la très grande ambiguïté de cette autoproclamation.
Et du côté de la Grande-Bretagne, c'était pas l'inverse, précisément? Il n'y a pas un juge qui a effectivement donné un accès à l'or vénézuélien à Juan Guaido au printemps, je crois me souvenir?
Dans un premier temps, puis dans un second temps, non.
D'accord.
Et puis d'autre part, il y a les mêmes débats aujourd'hui aux États-Unis. Et l'un des éléments de faiblesse de Guaido, justement, c'est qu'il ne parvient pas à l'emporter sur ce terrain-là actuellement. Juste pour revenir sur une question que vous posiez un petit peu plus tôt, je crois aussi que si Guaido boycotte, tout à l'heure on essayait de comprendre les raisons de ce boycott, l'une des raisons aussi, c'est que je crois qu'il a beaucoup perdu de sa crédibilité au sein même du Venezuela, et notamment quand même après la rocambolesque tentative de débarquement qui a eu lieu il y a quelques mois, alors dont il n'était pas directement responsable, mais dont il a été montré qu'il avait des liens, dont il a été montré qu'il avait des liens avec ceux qui avaient organisé cela, et ça, je crois que ça a aussi été un élément de décrédibilisation. Ce que disait Thomas tout à l'heure sur Capriles est très intéressant, parce que au fond, sans doute que Capriles a été l'opposant le plus constructif au début des années 2010, notamment lors de la campagne de 2010 et 2012, pardon, contre Chavez, puis après la mort de Chavez dans la campagne qui a porté Maduro à la présidence, Capriles est le seul qui disait « Nous allons, si je suis élu, je prendrai en compte les héritages du chavisme ». Il n'y a pas eu que des mauvaises choses. Il y a eu une augmentation de l'indice de développement humain au Venezuela dans les années 2000, etc. Mmh. Autrement dit, effectivement, il était beaucoup plus consensuel, et l'un des gros problèmes aujourd'hui avec la personnalité de Guaido, c'est qu'il est effectivement dans une dénonciation souvent brutale, souvent très agressive, et il apparaît pour beaucoup comme incapable, effectivement, par exemple, de prendre la tête d'un gouvernement d'unité nationale pour assurer une reconstruction.
Mais alors justement, Thomas Posado, qu'on a retrouvé, que reste-t-il de cette ligne que décrivait Olivier Compagnon, disons une ligne un peu nuancée qu'incarnait à une époque Henrique Capriles? Quelle force politique elle a dans cette opposition aujourd'hui, Thomas Posado?
Aujourd'hui, elle n'a pas vraiment d'espace politique dans cette opposition. C'est-à-dire que cette ligne nuancée, elle obéirait à un dialogue, une nuance qui soit possible au Venezuela. Aujourd'hui, l'impasse stratégique dans laquelle est l'opposition et dans laquelle les difficultés auxquelles se heurte Juan Guaido, qu'illustrait bien Olivier Compagnon, fait qu'il y a davantage des phénomènes de radicalisation. À l'opposé de cette ligne Capriles, il y a la ligne Maria Corina Machado et Antonio Ledesma, qui est clairement une logique d'en appeler à l'intervention étrangère, de signer, y compris des appels communs avec l'extrême droite espagnole de Vox, pour lutter contre le totalitarisme communiste, comme il l'appelle, et donc qui est, enfin, cette radicalisation incarne un peu cette absence, cette impasse stratégique dans laquelle est l'opposition. Et pour arriver à un dialogue modéré, il faut que y ait une possibilité dans la société d'un dialogue, ce qui aujourd'hui n'est absolument pas le cas. Henrique Capriles a proposé une forme de négociation dans l'organisation de ces élections. Il n'a pas eu gain de cause, et où de fait on se retrouve dans une opposition qui va faire des scores sans doute très marginaux, parce que au-delà du boycott de l'opposition, il y a une apathie très forte de la population à l'égard de ce scrutin, parce qu'elle ne voit pas dans ce scrutin une manière de changer sa vie et de mettre fin aux difficultés qui l'assaillent aujourd'hui au quotidien, les pénuries d'essence, les pénuries d'aliments, les pénuries de médicaments, les pénuries les pannes des services publics les plus basiques, d'électricité, de gaz, qui font que ces élections sont pas sa priorité et sont l'antépénultième de leur soucis, parce que ça ne changera pas leur vie immédiatement.
Vous évoquiez Maria Corina Machado. Oui. Vous évoquez Maria Corina Machado. Je vous propose de l'entendre. C'était il y a quelques jours dans le cadre d'un événement qui s'appelle le Forum 2000, et on va entendre justement, vous parliez de positions un peu plus radicales. Effectivement, elle a des positions un peu plus radicales. En tout cas, elle appelle de façon assez claire les pays qui veulent bien prêter main forte à faire tomber ce régime. Écoutez-la.
This is not only now a case for solidarity.
Il ne s'agit plus maintenant seulement de solidarité et de respect des droits de l'homme. Désormais, la plus grande menace et le plus grand danger concernent la sécurité nationale. C'est évident. Cela fait longtemps que nous signalons que les militaires iraniens et russes sont bien installés au Venezuela et font partie du soutien à ce régime criminel. Donc, que devons-nous faire? Nous devons créer une force aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur pour démontrer à ces criminels que le monde occidental ne laissera pas le Venezuela se détruire de l'intérieur. Ça doit être une menace crédible qui fasse comprendre au régime qu'il est dans son propre intérêt d'accepter les termes de la négociation afin qu'il parte. Mais vous devez le faire avec un rapport de force favorable et non en étant en position de faiblesse.
Thomas Posado, on vient d'entendre la Maria Corina Machado. Qu'est-ce qu'elle représente à la fois à l'intérieur du pays? Est-ce que c'est une position qui est soutenue, et dans quelle mesure? Et cet appel du pied à l'étranger, est-ce que vous pensez qu'il a la moindre chance d'être entendu? Parce que là, concrètement, ce à quoi elle appelle, c'est une intervention internationale, hein, c'est très clair.
Oui, clairement. Oui. Enfin, c'est les franges les plus radicales, voire extrémistes de l'opposition vénézuélienne. Qu'est-ce que cela représente? C'est extrêmement difficile à dire, puisqu'il n'y a pas de mesures précises, il n'y a pas de scrutin où chacune de ces tendances se mesure les unes face aux autres. Ça représente une certain désespoir de l'opposition à l'intérieur du pays, une incapacité à construire à l'intérieur du pays, et donc de se retourner vers l'étranger.
Non, mais elle, par exemple, elle va participer aussi aux élections. Est-ce qu'une victoire de cette force politique-là pourrait être attendue pour dimanche?
Ah non, la tendance de Maria Corina Machado ne participe pas aux élections.
Ah, je pensais qu'elle y participait.
Et justement, elle considère que toute négociation pour participer aux élections est une trahison, est une compromission vis-à-vis de ce régime dont vous avez entendu les mots qu'elle utilise pour en parler. Non, on a justement, ça incarne ces tensions au sein de l'opposition. Quand Enrique Capriles disait, par exemple, il faut mettre fin aux sanctions parce qu'elles font souffrir le peuple vénézuélien, Maria Corina Machado appelle à les durcir parce que c'est comme ça qu'on arrivera à faire tomber cette dictature. C'est même sanctions états-uniennes qui ont des conséquences dramatiques pour la population vénézuélienne. Donc on est dans cette tension et dans cette impasse de projets à court terme que propose l'opposition. Comment on suscite l'adhésion des Vénézuéliens sans en passer par l'étranger, sans en passer par des mesures qui aggravent leur quotidien qui est déjà dramatique. Et là-dessus, on a des stratégies opposées. Est-ce qu'on essaye de jouer le jeu d'élections qui sont pas forcément transparentes, ou est-ce qu'on en appelle à une intervention étrangère? Pour l'instant, les problèmes viennent plus de l'étranger que des solutions. On voit plus de problèmes qui viennent de l'étranger que des solutions aujourd'hui au Venezuela.
Olivier Compagnon, pendant un moment, on a pensé qu'une intervention américaine était possible. L'hypothèse a même été très clairement formulée par Donald Trump. Et puis finalement, elle n'a pas eu lieu. Il y a deux questions. La première, c'est pourquoi est-ce qu'elle n'a pas eu lieu? Et la seconde, c'est évidemment, il va maintenant quitter la Maison Blanche. Ça y est, a priori, maintenant, c'est acté. Joe Biden va donc lui succéder. Qu'est-ce que ça va changer pour le Venezuela, Olivier Compagnon?
Heureusement qu'elle n'a pas eu lieu quand même, parce que le temps de la guerre froide est quand même révolu depuis 3 décennies maintenant, et ça aurait quand même rappelé de très mauvais souvenirs. Alors non pas au Venezuela, mais au Guatemala, au Chili, en Argentine et dans de nombreux autres pays. Enfin, ce temps où les États-Unis pouvaient faire et défaire les gouvernements et bien heureusement derrière nous. Moi, à titre et d'ailleurs, je pense que les États-Unis, enfin que les priorités de Trump, il y avait sans doute, je dirais, un élément comme on voyait ça chez Bush avant, un élément de rhétorique dans la dénonciation de rhétorique vis-à-vis de son électorat et vis-à-vis de la communauté internationale dans la dénonciation du communisme vénézuélien. Enfin, la priorité de Trump a toujours été la relance économique interne aux États-Unis et plutôt une tendance au retrait de ces troupes déployées ça et là dans le monde et notamment au Moyen-Orient. Donc je pense que on était vraiment beaucoup plus dans la dimension discursive que dans quelque chose de très concret. En tout cas, ça n'a pas eu lieu. Moi, pour continuer la discussion justement sur les scénarios de sortie de crise, l'intervention étrangère pour moi est quand même quelque chose qui pourrait même être particulièrement mal perçu à moyen terme, peut-être pas sur le même moment, par une bonne partie de l'opposition vénézuélienne, de l'opinion vénézuélienne, pardon. Et moi je reste assez convaincu que ou bien on va avoir un scénario, effectivement, alors vous parliez tout à l'heure dans votre introduction d'insurrection populaire parce qu'effectivement les conditions du quotidien sont devenues insupportables, peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas un scénario interne. Et moi je pense depuis longtemps, je verrai bien si j'ai raison à terme, que l'une des solutions viendra de l'armée, comme très souvent d'ailleurs dans l'histoire du Venezuela. Une armée qui aujourd'hui reste entièrement fidèle pour l'instant dans ce que l'on en sait, parce qu'en fait on en connaît mal aujourd'hui la sociologie politique, qui reste apparemment fidèle au gouvernement, mais qui pourrait très bien faire basculer les rapports de force. Et c'est souvent comme ça en Amérique latine, sans vouloir généraliser trop facilement.
Oui, c'est souvent comme ça, vous avez raison Olivier Compagnon, sauf que force est de constater que ça n'est pas comme ça que ça se passe là. Le pari de Guaido, c'était celui que vous disiez, c'était de retourner l'armée contre Maduro. Et d'ailleurs, au début, il y a eu quelques défections. Quand je dis au début, c'est après janvier 2019. Oui. Sauf qu'en réalité, il n'y a jamais eu de ralliement massif, celui qui l'attendait. Qu'est-ce qui explique précisément que l'armée, puis je vous poserai la question sur l'armée aussi, Thomas Posado, mais cette armée vénézuélienne reste aussi fidèle à Maduro?
Alors, en tout cas, les états-majors restent extrêmement fidèles parce qu'on a soigneusement choisi les individus qui étaient à leur tête. D'aucuns disent aussi, c'est très probablement vrai, que la corruption permet d'assurer la fidélité. Mais on sait, au travers d'un certain nombre de témoignages ou d'études pas très récentes, pour le coup, en tout cas je n'en connais pas de très récentes, que parmi les les soldats du rang, finalement, la souffrance au quotidien face à toutes les pénuries, face aux conditions de vie absolument déplorables que décrivait Thomas tout à l'heure, est tout aussi forte que dans le reste de la population. Et c'est peut-être là aussi que ça peut se jouer à un moment donné.
Oui, sauf que ça fait très longtemps qu'on dit que c'est là que ça pourrait jouer et que ça ne se joue pas. Ça me fait penser à ce qu'on disait sur la Syrie d'ailleurs. Sur la Syrie, on disait la même chose. Et finalement, l'armée syrienne est restée très globalement derrière Bachar el-Assad et ce retournement n'a jamais eu lieu. Thomas Posado, sur le Venezuela, est-ce qu'on peut regarder peut-être les intérêts économiques qu'il y a derrière, parce que peut-être que justement cet impossible retournement est lié au fait que l'armée a des intérêts économiques à préserver. Est-ce que ça pourrait expliquer en partie le fait que Maduro a encore, en tout cas largement, le soutien de l'armée, Thomas Posado?
Tout à fait. C'est une des raisons pour lesquelles l'armée reste fidèle à Nicolas Maduro. C'est que, au fur et à mesure que l'autorité, la légitimité de Nicolas Maduro s'est affaiblie, c'est celle de l'armée qui a cru et il a donné davantage de gages à l'armée que lui avait moins d'autorité dans le pays. Et donc, nombre d'entreprises nationalisées sont sous le contrôle de l'armée. Les hauts dirigeants arrivent à accumuler des capitaux importants par ce biais-là. On a des nominations de généraux, donc un capital symbolique, qui sont exponentielles. On a des présences dans le gouvernement qui, lors de un tiers des ministres qui sont des militaires. Donc, effectivement, il y a un accroissement de ce pouvoir. Après, pour aller dans le même sens que ce que disait Olivier Compagnon, ce dont je parle là, c'est dans les hautes sphères. Et donc, effectivement, il y a un renforcement du pouvoir économique de l'armée dans les hautes sphères. Mais à la base, bon, les soldats sont un petit peu sont payés de manière plus régulière que les travailleurs classiques. Mais on souffre des mêmes maux que souffre la société vénézuélienne. Et donc, là-dessus, effectivement, il y a une tension. Pour l'instant, ce corps est resté loyal à Nicolas Maduro, précisément parce que c'est un corps qui est extrêmement observé, parce que c'est un corps qui... connaît une répression quand il y a des tentatives de dissension qui sont extrêmement fortes, parce que c'est le secteur sur lequel a misé Juan Guaido, et donc c'est le secteur qui est particulièrement observé. Et pour l'instant, ce secteur est resté particulièrement loyal à Nicolas Maduro. C'est d'ailleurs un peu le pari perdu de Juan Guaido, c'est-à-dire à force de miser sur l'atout de son adversaire, bah, du coup, il a perdu le jeu. Est-ce que ces tensions sociales, est-ce que les pénuries, est-ce que etc. vont susciter une révolte chez les soldats? Personne peut le savoir à long terme. Est-ce que c'est dans la population, dans les quartiers pauvres des barrios, qu'on aura ce type de révolte? C'est difficile à imaginer, c'est difficile quand cette explosion peut avoir lieu. Ce qu'on peut savoir, c'est que le Venezuela...
Toutes les conditions sont là. La crise économique et sociale est profonde. L'économie est dévastée. Pour donner quand même une toute petite idée aux auditeurs, l'inflation, c'est plus de l'inflation, on appelle ça de l'hyperinflation. Entre juillet 2019 et juillet 2020, les prix ont augmenté de 4000%. On a des habitants qui se lancent dans des courses folles contre la dévalorisation du Bolivar, qui achètent n'importe quoi pour éviter de voir leur pouvoir d'achat fondre comme neige au soleil. Parce que dans une même journée, à la fin de la journée, vous pouvez avoir perdu 3 ou 4 ou 5% de votre pouvoir d'achat. On est vraiment dans une situation qu'on n'imagine pas plus difficile. Enfin, c'est la pire situation qui soit, Thomas Posado. On peut pas avoir plus.
Tout à fait.
Et pourtant, ça tient encore.
Jusqu'à quand? Enfin voilà, c'est un mystère. Comment ça tient? Et jusqu'à quand? C'est un mystère. Et puis c'est l'histoire des révoltes où on ne sait jamais quand elles surviennent et que c'est quelque chose qui n'est pas prévisible. Après oui, sur les difficultés du quotidien pour les Vénézuéliens, oui. Enfin aujourd'hui le salaire minimum au Venezuela est entre 1 et 2 dollars. Donc effectivement oui, ça ne permet pas de vivre. Le gouvernement met en place ce qu'ils appellent des CLAP, c'est-à-dire des cartons de nourriture qui sont distribués de manière régulière une fois par mois et qui permettent de subvenir à quelques besoins élémentaires, mais ce qui me permet de survivre quelques jours ou une semaine, mais qui ne me permet pas de vivre au quotidien. Certains Vénézuéliens arrivent à avoir des remessas, des transferts de fonds qui viennent de l'étranger. qui permettent de subvenir à d'autres besoins et qui permettent pour certains de vivre convenablement. Quand vous avez accès à des devises fortes comme le dollar ou l'euro, vous pouvez arriver à vivre et à subvenir à vos besoins au Venezuela. Mais pour l'immense majorité de la population, c'est un problème.
Oui, c'est invivable à tel point qu'on a...
qui rend cette situation explosive et où on ne sait pas ce qui peut advenir.
À tel point qu'il y a des centaines de millions de personnes qui sont parties, hein, qui sont exilées. Olivier Compagnon, est-ce que justement les élections de dimanche et peut-être une crise post-électorale derrière, parce qu'a priori, comme vous nous l'expliquiez, on n'est pas dans une situation avec un scrutin tout à fait normal, équilibré, démocratique. Est-ce que une nouvelle fièvre populaire, une nouvelle révolte populaire, une insurrection qui finalement renverserait totalement la table, puisqu'on voit bien que là tout est bloqué, vous paraît possible, Olivier Compagnon ?
C'est difficile à dire. C'est vrai que c'est très difficile à dire. Il est possible que si la victoire de Maduro est très large, l'opposition parvienne à cristalliser un peu les mécontentements en dénonçant effectivement la dictature encore plus enracinée avec un pouvoir qui aurait la main également sur l'Assemblée législative. Bon, c'est pas complètement exclu. Après, moi, je pense que le scénario économique, quand même, là, il est vraiment fondamental pour eux. Essayer de penser ce qui va se passer à l'avenir, parce que comme vous le disiez, bon, l'inflation, les prévisions pour fin 2020, c'est une inflation à 6 500%, c'est un chômage entre 50 et 60%, c'est un PIB à la fin de l'année 2020 qui représenterait un tiers de celui de l'année 2000. Donc on prend vraiment la mesure de la catastrophe économique. Là, il y a des économistes qui disent aujourd'hui que dans l'histoire de l'Amérique latine, qui pourtant n'a jamais été avare en crise d'hyperinflation, hein, quand on pense à l'Argentine des années 90, etc., c'est le cas le plus important, complètement inédit, à l'exception du Nicaragua de la fin des années 80, lorsque le régime sandiniste était en train de se décomposer. Donc là vraiment, faut prendre la mesure de cet élément, et c'est vrai qu'aujourd'hui la réponse, vous le rappeliez, la réponse de beaucoup de ces très grands précaires du quotidien a été celle de l'émigration. Hein. Entre 4 et 5 millions de Vénézuéliens sont partis au cours des 5 dernières années, principalement dans les pays voisins. Mais aujourd'hui, cette réponse, elle est de plus en plus compliquée, cette réaction est de plus en plus compliquée, parce que avec la crise économique liée à la pandémie de Covid-19, ces migrants qui parvenaient bon an mal an à survivre en Colombie, au Pérou, en Équateur, au Chili, etc., n'y parviennent plus vraiment. On a eu des mouvements de retour depuis mars-avril de ces migrants. Aujourd'hui, l'émigration, en tout cas en Amérique latine, n'est plus vraiment une solution. Et c'est vrai que je dirais que voilà, la cocotte minute est de plus en plus prête à exploser. Et là encore, quand c'est difficile à dire. Il faut aussi prendre la mesure quand même, un mot là-dessus, hein, de l'impact de la crise de la crise sanitaire. Alors, on a des chiffres officiels qui sont relativement faibles, je dirais, en termes de bilan. Hein, une centaine de milliers de cas de Covid et à peine un millier de morts aujourd'hui, d'après ce qu'on connaît officiellement. Bon, pas mal d'ONG qui sont sur le terrain disent que ces bilans sont très, très largement sous-estimés. Et on sait, par ailleurs, hein, que le réseau public de santé ne dysfonctionne complètement, aussi bien faute de main d'œuvre. Beaucoup de médecins, d'infirmiers ont fait partie de ces flux migratoires, et faute aussi d'équipements, de médicaments. Et si la crise, si la pandémie se poursuit, ce qui est quand même probable, alors Maduro a annoncé que le Venezuela avait trouvé un médicament qui annulait à 100% le coronavirus. Il a annoncé ça fin octobre, mais on demande à voir. Si la crise se poursuit, je pense que c'est aussi un facteur. Si la crise sanitaire se poursuit, je crois que c'est aussi un facteur important à prendre en compte pour le début de l'année 2021.
On était avec vous, Olivier Compagnon, et vous, Thomas Posado, dans cette série consacrée à l'Amérique latine. On parle aujourd'hui du Venezuela, de cette situation humanitaire absolument catastrophique. Il y a peut-être un pays qui pourrait venir en aide au Venezuela, c'est la Chine. On sait qu'évidemment, régulièrement, Pékin est venu en aide à Caracas. On va en parler justement.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Le président chinois Xi Jinping a déclaré vendredi que la Chine était prête à renforcer sa coopération avec le Venezuela en matière de prévention et de contrôle du Covid-19 et a continué d'aider le pays d'Amérique latine à lutter contre la maladie à coronavirus. De son côté, M. Maduro a noté que la Chine a obtenu des résultats significatifs à ce stade dans sa lutte contre le Covid-19. Le président vénézuélien a également déclaré qu'au nom du peuple vénézuélien, il souhaitait exprimer son admiration et sa gratitude au Parti communiste chinois, au gouvernement chinois et au peuple chinois.
Voilà, une brève d'avril dernier d'une télévision chinoise. Est-ce que la Chine pourrait être à nouveau un recours pour le Venezuela, alors que l'économie vénézuélienne est aujourd'hui asphyxiée, on le disait, par les sanctions américaines notamment. Maduro compte encore sur ses investissements chinois pour redresser la barre grâce à une loi controversée qui permettrait d'ouvrir encore le secteur pétrolier, mais l'efficacité de la manœuvre est incertaine. C'est un texte qui n'a pas été voté par l'Assemblée nationale, qui s'oppose évidemment à la législation préexistante, et Caracas est en déjà débiteur de quelques 20 milliards de dollars à Pékin, on peut quand même s'interroger. Bonjour Iris Marjolais.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes doctorante à l'Institut français de recherche sur l'Asie de l'Est. Je le disais, il y a cette loi sur l'ouverture du secteur pétrolier, qui est une loi qui a été baptisée loi anti-blocage. Elle a été approuvée le 8 octobre dernier à l'Assemblée constituante chaviste. Vous nous dites en quelques mots ce que prévoit ce texte et l'objectif qu'il y a derrière. Est-ce qu'il faut comprendre que, en réalité, c'est quelque chose qui est destiné à permettre à la Chine d'à nouveau investir un certain nombre de capitaux pour sauver la mise à cette économie vénézuélienne qui est dans une déroute, c'est même plus une déroute, c'est vraiment à terre aujourd'hui, Iris Marjolais.
Oui, alors comme vous l'avez dit, ce texte, donc cette loi porte bien son nom, anti-blocus, c'est pour donc contourner les sanctions américaines, donc qui visent les sociétés pétrolières, donc qui commercent avec le Venezuela depuis. Donc ces sanctions ont été mises en place depuis avril 2019, hein, pour les plus récentes et les plus fortes. Et donc, du coup, PetroChina, donc la société pétrolière chinoise, a donc cessé d'importer directement du pétrole vénézuélien, donc depuis après ces sanctions, donc depuis août 2019, et a cessé aussi ses activités d'extraction, donc dans l'Orénoque. Cette loi essaye de contourner donc ces sanctions et a permis à la Chine de reprendre directement ses importations pétrolières, donc ce mois-ci. Elles sont passées de 500 000 ou 600 000 barils jour, donc au mois de novembre, donc la majorité allant en Asie. Donc cette loi est destinée donc à encourager les investissements lors du secteur pétrolier, comme vous l'avez dit. Il y a eu des réunions avec les Chinois, les Russes, donc à Caracas en octobre, juste avant cette loi. Donc encourager de nouveaux investissements de la part de la Chine, je ne suis pas sûre, vu que les derniers prêts ont été émis en 2016. Donc pour rappeler un petit peu, la Chine a octroyé plus de 60 milliards de prêts au Venezuela entre 2005-2007 et jusqu'à 2016.
Mais elle en a remboursé une partie.
Elle en a remboursé une partie, il lui reste environ 16 milliards à rembourser. Donc évidemment, cette loi est surtout destinée au secteur des hydrocarbures, puisque c'est la seule source économique du pays. Donc elle permet donc de reprendre de manière officielle, entre guillemets, hein, les exportations, jusqu'à ce que les sanctions prennent fin. Elle voudrait dire aussi que elle impliquerait une privatisation donc des filiales de PDVSA, donc avec une modification de la participation des actionnaires, donc des compagnies mixtes, donc dans lesquelles participent la Russie et la Chine, donc une prise de peut-être plus de 50% du capital actionnaire de ces entreprises, mais je suis pas sûre que avec cette loi, la Chine investisse, fasse de nouveaux investissements. Étant donné qu'elle est depuis donc la chute des cours du pétrole de 2014 et ça avait commencé avant, la Chine et le Venezuela ont quelques frictions au sujet de l'emploi de l'argent, les infrastructures pétrolières sont en très mauvais état et ça ne date pas de Maduro. C'était sous l'administration.
Oui, donc en fait, on va se contenter d'exploiter ce qu'il y a encore à exploiter et on ne va pas faire de nouveaux investissements. C'est ça qu'il faut comprendre.
En fait, je pense que cette loi, c'est surtout pour exporter directement à la Chine, sans qu'il passe par la Russie, par des sociétés écrans.
Ça va rapporter beaucoup à l'État vénézuélien et jusqu'où est-ce que ça peut permettre justement à répondre ça peut permettre de répondre à l'urgence économique.
Non, en fait, non. C'est surtout une mesure pour rembourser la dette aux Chinois et les garder comme partenaires, en fait. Mais en matière de cash, enfin de flux financiers, non, je ne pense pas.
Juste un point, parce que on sait bien que la Chine, ça fait un moment qu'elle investit dans ce secteur pétrolier vénézuélien. Très concrètement, aujourd'hui, elle a la main mise totale sur le brut vénézuélien. La part de production contrôlée par la Chine, c'est quoi?
Elle contrôle à travers ses entreprises mixtes un petit peu moins de 40%. Donc elle a 13 participations dans des projets pétroliers, mais ces projets sont peu rentables, ils produisent peu. Et donc vous donner un chiffre exact de ce que ça lui rapporte,
c'est
ça,
compliqué.
Je pourrais pas vous dire.
En revanche, ce qu'on peut peut-être regarder, Iris Marjolais, c'est jusqu'où est-ce que Pékin soutient Maduro. Parce que on peut légitimement se dire que si justement on n'arrive pas à sortir du chavisme, c'est aussi parce que Pékin régulièrement a permis à Caracas de sortir un peu la tête de l'eau. Est-ce que c'est des intérêts purement financiers, géostratégiques, énergétiques qui sont derrière, ou est-ce qu'il y a aussi le désir de soutenir très clairement ce régime-là?
Alors je pense qu'ils le soutiennent parce que en fait ils ont énormément d'intérêts économiques, donc l'engagement, leur soutien politique permet de maintenir ces intérêts et d'être remboursés. Mais au-delà de ça, si par exemple il y avait un changement d'administration, que puisse imaginer Guaido à la tête du pays, les Chinois travailleraient avec Guaido et seraient peut-être même soulagés quelque part si il y avait une restructuration totale du secteur pétrolier, enfin du secteur économique au Venezuela, avec un changement de gouvernement et un plan de relance vraiment concret, quelque chose qui leur permette de réinvestir, d'être remboursés, quelque chose de vraiment solide et pas des mesures... avec cette loi, comme on a pu le voir, qui au final change pas grand chose, surtout si les États-Unis prennent encore des sanctions.
Et est-ce que ça veut dire que justement Pékin peut-être n'y travaille pas directement, mais a déjà placé ses billes? Est-ce que par exemple on parle avec l'opposition? Est-ce qu'on parle avec Juan Guaido et on met les choses en place pour que si jamais ce scénario politique-là arrive, on puisse en tirer un bénéfice?
Alors, il n'y a rien d'officiel, évidemment, mais ce serait étonnant que la Chine ne parle pas avec l'opposition. La Chine est pragmatique, elle veut préserver ses intérêts, être remboursée et puis préparer le futur. Donc, pour l'instant, les négociations n'ont rien donné, donc elle fait bon an, mal an avec ce qu'elle a avec Maduro, mais certainement qu'elle doit préparer l'avenir et que peut-être des discussions sont en cours, c'est pas exclu.
Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, Olivier Compagnon, c'est que ce soutien de la Chine, il se fait pas seulement dans le secteur pétrolier. On a vu par exemple cette semaine, les États-Unis ont annoncé des sanctions contre une société chinoise électronique qui est accusée d'aider le gouvernement Maduro à censurer l'internet et à faire taire les opposants. Donc ça veut dire que on a aussi une Chine qui propose son aide pour éviter toute expression démocratique et qui donc de fait favorise le maintien de Maduro quand même, Olivier Compagnon.
Oui, sans doute, mais je souscris tout à fait à ce que disait Iris. L'enjeu quand même majeur, de toute façon, la Chine, il faut aussi penser cette présence chinoise au Venezuela dans un cadre plus général qui est celui de l'arrivée massive d'abord du commerce chinois, mais aussi des capitaux chinois en Amérique latine depuis le tournant des 20e et 21e siècles. Ça, c'est le premier élément quand même de contexte. Bon, deuxièmement, faut jamais perdre de vue que l'avenir, à savoir que le Venezuela détient parmi les premières réserves de pétrole au monde, que la transition énergétique à laquelle il faut, ce que nous appelions tous de nos voeux, n'est pas quand même exactement sur le point d'arriver, et que donc l'enjeu pétrolier est majeur. Et donc, je suis tout à fait d'accord, la Chine, là, prépare l'avenir, sont probablement en parlant également avec Guaido, et là, il y a un enjeu majeur, et ça, il faut le dire quand même, c'est très important, c'est le niveau aujourd'hui des infrastructures pétrolières vénézuéliennes. C'est-à-dire qu'à la fin des années 2000, la moyenne quotidienne de production de barils, c'était 3 millions. Aujourd'hui, c'est moins de 1 million. Et ça, c'est vraiment faute d'investissements structurels. Hein. L'industrie pétrolière nécessite des investissements très réguliers de mise à niveau des infrastructures, notamment, d'autant plus avec le pétrole lourd, bitumineux de l'Orénoque, qui n'ont pas du tout été faits ni sous Maduro, ni sous Chavez. Je souscris tout à fait à ce qui a été dit. Et aujourd'hui, c'est aussi une manière, enfin, essayer de ramener des capitaux dans ce domaine-là, c'est aussi une manière de préparer l'avenir. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que tout le monde parle avec Maduro et avec Guaido. Enfin, hier ou avant-hier, Guaido était auditionné par la commission des affaires étrangères du Sénat français parce que cet enjeu stratégique que représente le Venezuela depuis le début des années 1920, en fait, avec ses réserves de pétrole, est aujourd'hui la première donnée qu'il faut avoir en tête pour penser les évolutions contemporaines.
Iris Marjolais, un tout dernier point, parce que il y a évidemment le secteur pétrolier. On voit que Pékin est très, très présent dans ce domaine-là, mais il y a aussi une coopération dans le domaine militaire entre la Chine et le Venezuela. Juste en quelques mots, la nature et l'ampleur de cette coopération militaire et jusqu'où ça pourrait aller. Pour l'instant, il n'y a pas de base militaire permanente au Venezuela, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer dans les années à venir et pousser évidemment peut-être d'autres pays, Olivier Compagnon parlait à l'instant de la France, à du coup davantage s'engager dans ces enjeux stratégiques qui sont derrière Iris Marjolais.
Oui, alors une base militaire, ce n'est effectivement pas pour tout de suite. Après, sur le très long terme, c'est pas exclu. Hein. C'est vrai que le Venezuela a une position assez stratégique. Mais pour revenir donc aux enjeux militaires, donc la coopération a commencé au début des années 2000, en fait, à peu près en même temps. Enfin, après la coopération pétrolière, donc ça a été un peu une opportunité pour Chavez de nouer des liens de coopération et une opportunité aussi pour la Chine, parce que quand vous nouez des liens militaires avec un pays, vous vous engagez pour plusieurs années, des dizaines d'années, et ça rapproche politiquement et économiquement les pays. Donc en fait, c'est une coopération, donc une vente d'équipements, donc d'armes, d'équipements anti-émeutes, d'avions, de radars. Donc c'est une coopération qui est moins grosse en termes de ventes qu'avec la Russie, mais qui est néanmoins présente, qui a pu rapprocher les pays et qui a pu permettre à la Chine de s'implanter en Amérique latine sur le marché, même si elle n'a pas des parts énormes. Puis il y a aussi des échanges entre académies militaires, coopération en matière de satellites. Ils ont lancé plusieurs satellites pour le Venezuela, dont un de renseignement. Donc évidemment, ça pose des problèmes pour les États-Unis qui sont un peu inquiets pour leur sécurité et qu'ils mettent beaucoup en avant d'ailleurs. Et puis aussi une coopération en matière de sécurité, vous l'avez dit, avec cette entreprise CEIEC qui aide la Chine, qui aide le Venezuela à surveiller.
Merci Iris Marjolais. Merci à nos deux invités, Olivier Compagnon et Thomas Posado, d'avoir été avec nous ce matin. Merci de nous avoir éclairé sur cette situation au Venezuela. C'est avec un groupe vénézuélien justement qu'on se quitte. On mettra évidemment leur référence sur le site de France Culture. Vous pouvez bien sûr retrouver toute la série qu'on a consacrée à l'Amérique latine sur la page de France Culture, sur l'application Radio France. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Palme. Mais d'abord, c'est Brice Couturier, le Tour du Monde des Idées.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors, le cinéma a-t-il un avenir? Les réalisateurs James Cameron, Clint Eastwood et Martin Scorsese ont lancé un appel à l'aide au Congrès américain. Selon eux, le cinéma pourrait ne pas survivre à l'impact de la pandémie, disaient-ils.
Oui, en effet, Tenet, le film de Christopher Nolan, entre deux confinements, a été le dernier blockbuster de la pandémie. Sorti dans 70 pays, il a rapporté 350 millions de dollars, ce qui est coquet, mais un peu moins qu'espéré par ses producteurs et surtout, observe le milieu, seulement 45 millions de dollars aux États-Unis même. Depuis, toutes les méga-productions hollywoodiennes sont à l'arrêt. Silence, on a cessé de tourner pour une excellente raison. Les salles de cinéma sont fermées. Prenez le groupe Cineworld qui a annoncé en octobre la fermeture temporaire des 536 salles qu'il possède aux États-Unis et des 127 qu'il détient en Grande-Bretagne. 45 000 salariés se retrouvent sur le carreau. Son PDG, Mookie Gray Ginger, explique « On est comme une épicerie qui n'a pas d'aliments à vendre, c'était la décision à prendre. » D'autres projets reprennent. Leurs producteurs ont décidé de contourner le circuit des salles et de passer directement au streaming. Comme l'écrit Gianluca Sergi, professeur à l'université de Nottingham, « Tandis que les salles de cinéma américains demeurent fermées, le cinéma, lui, montre des signes très perceptibles de vie ailleurs. La pandémie actuelle menace sérieusement la prédominance de Hollywood dans cette industrie. Mais le cinéma se porte très bien dans d'autres pays. Le marché cinématographique chinois est devenu le premier du monde, tout comme d'ailleurs le marché automobile. Le film Les 800, une superproduction patriotique retraçant l'héroïsme de soldats chinois face aux Japonais lors de la bataille de Shanghai en 1937, avait été interdit par la censure communiste l'an dernier. Et bien, il a été autorisé cet été en Chine et il a connu un succès formidable. Il est possible donc que le cinéma soit simplement en train de changer de capitale. Après tout, souligne Gianluca Salgi, ce ne serait pas la première fois dans l'histoire qu'une épidémie entraînerait un tel décentrement. La grippe espagnole, qui a tué 50 millions d'êtres humains au sortir de la Grande Guerre, a fait prendre un retard considérable aux studios européens qui, avant le conflit, dominaient encore cette activité.
Et oui, et c'est à ce moment-là, Brice, que Hollywood a d'ailleurs supplanté New York comme centre de la nouvelle industrie, et pour une raison assez simple, c'est que l'épidémie y frappait moins durement la côte ouest.
Et oui, les William Fox, les Jesse Lasky, respectivement créateurs de Fox Century et Paramount, s'inspiraient des méthodes d'organisation rationnelle du travail déjà en œuvre dans l'automobile à l'époque, et la grande machine américaine à rêve était lancée. Les avis annonçant la mort du cinéma sont largement exagérés, répond Darren Paul Fisher de la Bond University en Australie. Selon cet autre universitaire, il existe trois scénarios possibles de sortie de crise. Le premier, abandonner ce qu'on appelle la chronologie des médias chez nous et adopter ce que les Américains appellent eux le day and date. Aux États-Unis, les films sortent normalement en salle 70 jours avant d'être disponibles sur les petits écrans. Il s'agirait cette fois de faire coïncider la sortie en salle et la disponibilité sur les plateformes de streaming. Leur modèle économique, à ces derniers, est intéressant pour les producteurs puisqu'il faut savoir que la distribution et l'exploitation en salle représentent pas loin des deux tiers du prix des tickets. En concurrence avec Netflix, l'apparition de sociétés capables d'investir des centaines de millions de dollars dans des films comme Disney ou Amazon permettrait de relancer l'industrie cinématographique. Deuxième scénario, les grandes plateformes de streaming rachètent une partie des salles tombées en faillite aux États-Unis. Et alors là, on renouerait avec le modèle économique d'intégration verticale d'avant-guerre où les grands studios hollywoodiens contrôlaient aussi la distribution et l'exploitation des films. Certes, on dirait la justice américaine l'a interdit en 1948 en condamnant précisément la Paramount, mais les juges américains semblent sur le point d'évoluer sur ce sujet, comme le suggère une décision rendue par un tribunal de New York en août dernier. Troisième option, les exploitants survivent à la crise actuelle et aussitôt celle-ci passée, les foules se ruent dans les salles de cinéma qui leur proposent des films éblouissants. Hélas, ce scénario-là est le plus improbable des trois. Mais il existe un quatrième scénario que cet universitaire australien ne semble pas imaginer, c'est que l'industrie du cinéma quitte Hollywood pour d'autres usines à rêve. La Chine, bien sûr, mais l'Europe aussi est bien placée, qui remarque la multiplication des projets de construction de studios de tournage en Grande-Bretagne cette année. Vous avez un London Hollywood à 300 millions de livres à Dagenham, dans l'est de Londres, un Hollywood du Nord qui va ouvrir à Liverpool en 2022, et puis Sky and Universal Studios annonce la construction d'un vaste complexe de studios à Elstree, dans le nord de Londres.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. Demain, on vous retrouve justement via le numérique sur la page de France Culture. Pour la radio, ça sera lundi. Très bon week-end. Dans un très court instant, c'est Olivia Gesbert et la Grande Table.
France Culture. L'esprit d'ouverture.